Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. Après des semaines de manifestations en Serbie, le Premier ministre Milos Vucevic a démissionné ce mardi, ainsi que le maire de la ville de Novi Sad. Novi Sad où 15 personnes avaient perdu la vie en novembre. Mais ce n'est pas la fin du mouvement, nous serons à Belgrade. Nous irons également au Groenland, voir pourquoi ce territoire du Danemark intéresse tant le président américain. Bienvenue dans Accent d'Europe. Le gouvernement serbe recule donc face au durcissement de la protestation. Depuis le 1er novembre dernier et l'accident mortel de la gare de Novi Sad, qui venait d'être reconstruite, les étudiants ont manifesté presque quotidiennement contre la corruption et les négligences du gouvernement. Ces derniers jours, ils avaient aussi bloqué des routes et un grand rond-point de la capitale. De nombreux citoyens et plusieurs professions se sont joints à eux et ont répondu présents aux appels à la grève. C'est un mouvement inédit depuis 25 ans qui fait trembler le régime du président populiste Aleksandar Vučić. Notre envoyé spécial à Belgrade, Louis Seyé, a passé ces derniers jours au cœur du mouvement de contestation. On écoute son reportage et on le retrouve juste après.
Massés derrière les banderoles de leur faculté, des milliers d'étudiants se rejoignent au-dessus de l'autoroute qui traverse Belgrade. Rapidement, beaucoup installent des grilles, un chapiteau, des toilettes. À 18 ans, Jelena a monté sa tente au beau milieu de cet échangeur du sud de la capitale.
On a tout bien préparé pour ce blocage. On apporte des tentes, de la nourriture, de l'eau. On est prêt à bloquer la circulation pour les prochaines 24 heures. Le plus important, c'est qu'on est tous ensemble, rassemblés ici avec le plus de monde possible. Et je pense qu'on a réussi.
Trois mois après la catastrophe mortelle de Novi Sad, les manifestations et les blocages sont devenus presque quotidiens en Serbie. Près de 60 universités du pays sont en grève et les étudiants multiplient les actions pour dénoncer la corruption et le népotisme du régime d'Aleksandar Vučić et réclamer justice. Dušan, 22 ans, montre son t-shirt avec des mains ensanglantées.
On est tous venus manifester pour exprimer notre mécontentement par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Avec l'accident de Novi Sad, lorsque le bâtiment s'est effondré, tout le monde parmi les étudiants s'est dit « ça suffit, il faut qu'on fasse notre part ». Ces blocages, c'est notre façon de montrer qu'on va faire de notre mieux pour changer les choses.
Presque toutes les voitures qui passent sur l'autoroute klaxonnent en soutien à la contestation. Complètement pacifique et indépendant des partis politiques, le mouvement étudiant est particulièrement populaire dans l'opinion. Son premier appel à la grève générale vendredi dernier a été entendu. Enseignants, avocats, artistes, mais aussi une partie des employés du service public se sont réunis pour l'une des manifestations les plus importantes depuis 25 ans. Beaucoup d'habitants apportent des repas aux étudiants et des agriculteurs ou des motards les aident à bloquer les routes des grandes villes. À 45 ans, Ivan est présent à chaque manifestation avec ses enfants.
Ces blocages sont la meilleure chose qui soit arrivée. Personne n'y perd, on peut tous y gagner. En Serbie, si vous êtes membre du parti au pouvoir et responsable d'actes illégaux, vous pouvez simplement dire « laissez les institutions faire leur travail » et vous recevrez une sanction minimum où vous ne serez même pas puni du tout. Les institutions ne font tout simplement pas leur travail et c'est pour ça que les étudiants ont 100% raison.
Face à cette contestation inédite, les autorités ont accusé le mouvement d'être manipulé par des services étrangers et de chercher à renverser le président. L'atmosphère s'est tendue au fil des mobilisations. Plusieurs étudiants ont été attaqués et des manifestants se sont même fait renverser lors des blocages. Des provocations du régime, selon Anna, une étudiante en photographie.
En fait, tous ces incidents, graves ou non, font que les gens sont encore plus révoltés. Et ça les pousse à aller dans la rue avec de nouvelles manifestations. Par exemple, vendredi dernier, on avait prévu une assemblée générale pour préparer de nouvelles manifestations. Quand on a appris qu'une autre fille avait été renversée par une voiture, c'est sans arrêt. Chacun de ces incidents motive encore plus les gens à se mobiliser.
Au pouvoir depuis 2012, le président Vučić et son parti, le SNS, ont mis au pas la plupart des institutions, suivant le même modèle que la Hongrie voisine de Viktor Orban. Les chantiers et les grands projets se sont multipliés et avec eux, des scandales de corruption qui affectent tous les citoyens serbes. C'est ce qu'affirme Ivanka Popović, ancienne doyenne de l'université de Belgrade.
Les étudiants ont simplement attiré l'attention sur des problèmes qui existent en Serbie depuis des années et qui ont conduit à la situation actuelle où chaque citoyen est désormais littéralement en danger en raison de la corruption extrême qui règne dans le pays. C'est donc un cri de demande de normalité qui constitue l'essence de ces protestations. Les citoyens de Serbie, et en particulier les étudiants, veulent vivre dans un état normal où les lois sont respectées.
Et on retrouve Louis Seyé au téléphone. Bonjour Louis.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes donc à Belgrade, vous avez réalisé ce reportage et vous étiez hier encore avec les étudiants. Ils ont donc en grande partie obtenu gain de cause ?
Alors en fait, pas vraiment. Ce sont évidemment des démissions importantes puisqu'elles concernent des personnalités en vue du parti au pouvoir et du sommet de l'État, mais elles ne devraient pas mettre un terme à la mobilisation en cours. Une raison simple à cela, c'est que ces démissions ne font pas partie des principales revendications des étudiants. Depuis le début de leur mouvement, ils ont en effet quatre revendications qui n'ont jamais changé. La publication de tous les documents relatifs à la rénovation de la gare de Novi Sad, l'arrestation des personnes soupçonnées d'avoir agressé des étudiants et des professeurs lors des blocages, l'abandon des poursuites contre les étudiants arrêtés et une hausse de 20% du budget de l'enseignement supérieur.
Donc le mouvement va se poursuivre ?
A priori oui, des appels à la grève générale ont été lancés et les manifestations devraient reprendre dans les prochains jours. Un important rassemblement a déjà été annoncé pour ce samedi 1er février. Il aura lieu à Novi Sad, 3 mois exactement après l'effondrement de l'auvent de la gare et la mort des 15 personnes.
Et le président Vučić dans tout ça est dans une position de plus en plus fragile, Louis.
Oui, alors c'est sûr qu'Aleksandar Vučić fait face à la plus grave crise depuis son arrivée au pouvoir en 2012, mais il dispose encore de soutien au sein de son parti, le SNS. Hier, lors d'une conférence, il a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement et il a évoqué un possible référendum sur sa présidence, une option rejetée par les partis d'opposition qui demandent un gouvernement de transition et des élections libres.
Merci Louis Seyé, à très bientôt. Depuis que Donald Trump a déclaré que la propriété et le contrôle du Groenland étaient essentiels à la sécurité nationale des États-Unis, ce pays ultramarin, qui fait partie du Royaume du Danemark, est sous les feux de la rampe. Les raisons de cet intérêt ne manquent pas. Le Groenland occupe une position géographique stratégique. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes et elle rend plus accessibles les trésors miniers de son sous-sol. Reportage à Nuuk, la capitale du Groenland, de notre envoyée spéciale Ottilia Ferret.
Quand on survole le Groenland en avion, on aperçoit des étendues de glace à l'infini. Et pour cause, une gigantesque calotte glaciaire recouvre 80% du territoire. Alors que peut bien vouloir Trump de cette immense terre gelée ? Kupa Nuuk, Inuit et ingénieur minière, a son explication.
La raison pour laquelle il dit qu'il veut acheter le Groenland et que son fils visite le Groenland, c'est juste pour montrer qu'il est là. C'est juste une manière politique et tactique d'éloigner la Chine et la Russie du Groenland en déclarant « Je suis ici, c'est mon territoire ». I am here. This is
my territory. Donald Trump le sait bien. Sous ses épaisses couches de neige et de glace repose un petit trésor géologique sur le point d'être révélé au monde, car au Groenland, la glace fond 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 80. Kupa Nuuk, qui a aussi travaillé pour le ministère des Ressources minérales pendant 5 ans, connaît la valeur de ces richesses enfouies et aujourd'hui inexploitées. We have a lot of
minerals. Nous avons beaucoup de minéraux. Le Groenland est comme un paradis pour les géologues. Nous avons des terres rares, nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons des diamants, des rubis, du titane, du zinc, du plomb. Sérieusement, nous avons de tout. Mais en raison de la localisation du Groenland dans l'Arctique, du manque d'infrastructures et du manque de main-d'œuvre, il est très coûteux d'exercer des activités minières au Groenland. À l'heure actuelle, on peut extraire les mêmes minéraux dans d'autres endroits du monde. Mais je crois vraiment que le Groenland dispose d'un grand potentiel minier dans le futur.
Ce jour-là, c'est journée porte ouverte à l'Institut des ressources naturelles du Groenland. Les habitants viennent en famille pour découvrir et apprendre davantage sur les ressources de leur terre. Beaucoup veulent parler avec Maaike Nyhuus-Poulsen, première géologue groenlandaise. Devant elle sont exposées des dizaines de roches différentes. Elle en pioche une multicolore.
Ça, c'est une terre rare, par exemple. Elle vient d'un des plus gros gisements que nous possédons dans le sud du Groenland. C'est l'un des plus grands au monde.
Ce minéral est indispensable à la transition écologique enclenchée par de nombreux pays dans le monde. Il est utilisé dans la fabrication de toutes sortes d'appareils électroniques de notre quotidien, notamment les fameuses voitures électriques des
gigantesque.
Tu vois le minéral rouge ici? Il faut le dilater, il faut l'écraser, puis retirer les minéraux blancs et noirs autour pour ne garder que les rouges. Et après, il faut les plonger dans de nombreux acides différents. Et il faut une centrale capable d'extraire les différents éléments. Le problème, c'est que l'Europe veut vraiment ces éléments. L'Europe est friande de ces éléments sur lesquels la Chine est actuellement assise. L'Europe et d'autres pays sont à la recherche d'un endroit pour l'exploitation minière.
En 2021, le Groenland a interdit l'exploration pétrolière sur son territoire pour des raisons écologiques. L'écologie qui est au cœur des préoccupations des opposants à l'exploration minière. Il est donc très difficile d'estimer à l'heure actuelle l'importance des ressources, en gaz par exemple, mais elles sont bien réelles. Maiken en détient la preuve entre ses mains.
Sur cette roche, on peut voir des traces de pétrole. C'est par ces bulles de gaz ici que le pétrole suinte. Beaucoup de gisements sont sous la glace, donc si la glace se met à fondre, beaucoup de minéraux seront exposés et plus faciles à extraire.
Et c'est pour cela que le Groenland, terre gelée, est aujourd'hui devenu terre de conquête. Au centre de recherche arctique ce jour-là, on trouve aussi Penelope Ruthau, glaciologue et climatologue. Devant elle, une carte du Groenland sur laquelle elle pointe la face nord-ouest du territoire. C'est cette zone précise qui intéresse également Donald Trump. Avec la fonte des glaces, ce passage au nord du Canada, infranchissable il y a encore quelques années, commence à devenir accessible durant la courte période de l'été, entre fin juillet et mi-septembre.
Le passage s'ouvre et se referme. C'est très inquiétant pour le climat, mais aussi pour la sécurité dans l'Arctique. On a tout d'un coup un passage ouvert à travers l'Arctique. Ça ouvre beaucoup de possibilités, mais ça remet aussi en cause la sécurité. Les prédictions disent que d'ici 2100, il n'y aura plus aucune mer de glace ici. Ça veut dire que tout le monde pourra transporter par ici n'importe quoi. Politiquement, on parle beaucoup de la connexion avec la Russie.
La Russie et la Chine manifestent des intérêts croissants pour l'Arctique. Les deux pays construisent de plus en plus d'infrastructures et investissent dans des projets miniers. Contrôler ce nouveau passage maritime ainsi que le territoire tout entier serait donc un moyen pour les États-Unis de contrer ces deux grandes puissances. Un moyen aussi d'assurer ses arrières militaires et de protéger la base américaine de Thule, cruciale pour la surveillance et haut lieu de sécurité avec des systèmes de défense antimissiles.
Les terres rares du Groenland dont parlait notre envoyé spécial Ottilia Ferret intéressent aussi l'Europe, bien sûr. Ce sont 17 métaux aux propriétés magnétiques et optiques essentielles, par exemple pour les moteurs électriques, les éoliennes, mais aussi l'industrie médicale et militaire. Bref, elles sont un enjeu industriel, mais aussi géopolitique. Bonjour Frédéric Lebel.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
La demande mondiale est exponentielle. En 2040, le monde devrait consommer 7 fois plus de terres rares qu'aujourd'hui. Or, l'Union européenne commence à s'y intéresser avec un certain retard.
Oui, le lithium et les terres rares seront bientôt plus importantes que le pétrole et le gaz. Cette petite phrase de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, date de septembre 2022, soit 6 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec les difficultés en approvisionnement en hydrocarbures que l'on connaît. Elle montre bien à quel point l'Europe s'est réveillée en sursaut, et très tard sur la question des terres rares, c'est-à-dire 20 ans après la Chine et 10 ans après les États-Unis.
Alors que l'Europe est très dépendante pour ses approvisionnements.
Oui, elle importe à 98% ces terres rares de Chine. Et ce quasi-monopole, il a été en partie créé par les Occidentaux qui ont préféré délocaliser l'extraction et le raffinage en Chine. Il faut le rappeler, dans les années 80, les États-Unis étaient leaders de l'extraction et la France raffinait 50% des terres rares, notamment dans une usine près de La Rochelle qui a fermé. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule usine de traitement des terres rares et elle est en Estonie. C'est le paradoxe des terres rares, essentielles à la transition écologique. Elles sont très polluantes, donc impopulaires, d'où la décision des Occidentaux de délocaliser en Chine la pollution générée par cette filière.
Mais de toute façon, Frédéric, les gisements se trouvent principalement en dehors de l'Union européenne.
Oui, les réserves les plus connues se trouvent en Chine, au Vietnam, au Brésil et en Russie. Sur le continent européen, aucune mine n'est exploitée, mais le Groenland est une zone géographique à haut potentiel, comme on dit, et les deux plus grands gisements répertoriés en Europe qui pourraient faire l'objet d'une exploitation d'ici une dizaine d'années, si tous les obstacles environnementaux et techniques sont levés, se situent au nord du continent, à Kiruna, en Laponie suédoise, et au sud-est de la Norvège.
Oui, c'est loin et ça ne suffira pas. Donc, pour ne pas être à la merci de la Chine notamment, les Européens doivent diversifier leurs sources d'approvisionnement.
Oui, suite au fameux discours d'Ursula von der Leyen, l'Europe a donc légiféré avec un texte intitulé en bon anglais « European Critical Raw Material Act » sur toutes les matières premières critiques, pas seulement sur les terres rares. Le but, trouver de nouveaux fournisseurs, par exemple le Kazakhstan, avec lequel on a signé un partenariat stratégique. L'Europe veut aussi renforcer la filière recyclage. Seulement 1% des terres rares sont actuellement recyclées. Bruxelles voudrait faire passer ce taux à 25%. Enfin, l'Europe veut reprendre la main sur le raffinage et développer les produits de substitution. Mais tout cela prend du temps et les nouvelles technologies sont très gourmandes en terres rares, mais dès maintenant.
Les explications de Frédéric Lebel. Merci Frédéric. C'est une expression que l'Italie a remise au goût du jour avec la récente sortie du film « Le train des enfants ». Adaptation d'un roman à succès de l'écrivaine Viola Ardone, « Le train des enfants » raconte une histoire vraie, celle des trains du bonheur « I treni della felicità » en italien. Dans l'Italie de l'après-guerre, entre 1945 et le début des années 50, ces trains emmenaient des enfants des familles pauvres du sud du pays vers les régions du centre et du nord. Le récit de Cécile de Barge, l'une de nos correspondantes en Italie.
Sto che cade una bella lucente chiude stella.
C'est une page oubliée de l'histoire italienne. Avant la sortie du roman et successivement du film, si on parlait des trains du bonheur, ça n'évoquait pas grand-chose. Pourtant, depuis 2004, donc 20 ans, Giovanni Rinaldi, un historien des Pouilles, s'était penché sur ces fameux trains du bonheur. Son travail, malheureusement, a eu moins d'écho qu'un roman best-seller et c'est dommage parce qu'il a fait un travail de fourmi pour faire connaître ce pan d'histoire qui est loin d'être anecdotique. Au total, 70 000 mineurs sont montés dans ces trains du bonheur, loin de leur famille.
Et quelle était la promesse de ces trains du bonheur?
Celle d'une vie meilleure, donc concrètement, à manger, de quoi s'habiller, des soins, si besoin, et aller à l'école. Écoutez ce témoignage d'une femme aujourd'hui octogénaire, elle s'appelle Luigina, originaire de la province de Frosinone, dans le Latium. Sixième enfant d'une famille d'ouvriers agricoles, elle embarque à bord de l'un des premiers trains du bonheur, direction Imperia, en Ligurie. Elle est alors âgée de 4 ans.
Au tout début, quand je mangeais, j'avais tellement peur qu'on me retire mon assiette alors qu'il restait des choses à manger que je la protégeais d'un bras pendant que je mangeais de l'autre, comme pour dire « Hey, j'ai faim moi, ne m'enlevez rien !»
Ces propos ont été recueillis par le média local Imperia Post Télé. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque 1945, l'immédiate après-guerre. De nombreuses familles sont incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants, des familles trop nombreuses, trop pauvres aussi. Un groupe de militantes au sein de l'UDI, l'Union des femmes italiennes, imagine une expérience solidaire et pourquoi pas l'accueil par des familles plus aisées pour ses enfants. Alors plus aisé ne veut pas dire riche non plus, c'était parfois des familles d'agriculteurs qui avaient déjà des enfants eux-mêmes ou bien des travailleurs, des ouvriers. L'initiative est relayée par le Parti communiste italien. À la mi-décembre 45, les premiers trains partent de Milan et de Turin, donc dans le nord du pays, vers respectivement Reggio Emilia et Mantoue. À leur bord, plus de 2000 enfants. Ce n'est que quelques mois plus tard que les régions du sud, en particulier la Campanie, les Pouilles, le sud du Latium, demandent à participer au projet.
Cécile, comment fonctionnait concrètement cette initiative ?
Des listes circulent dans les quartiers les plus déshérités de villes totalement détruites par la guerre. En Campanie, par exemple, il y a Naples, mais aussi Cassino. Donc, ça ne concerne pas que les grandes villes. Les parents qu'ils souhaitent peuvent inscrire un ou plusieurs de leurs enfants sur ces listes. Les trains, eux, sont mis à disposition par l'État italien, donc ça ne coûte rien aux parents. Et puis, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent autour de ces trains du bonheur. Écoutez cet extrait de témoignage tiré du documentaire « Pasta Nera » réalisé par l'historien Giovanni Rinaldi et par Alessandro Piva.
On pleurait tous parce que ceux qui n'avaient pas envoyé leurs enfants disaient aux autres « N'envoyez pas vos enfants là-bas, parce que là-bas, en Italie du Nord, les communistes vont les manger. »
Les enfants sont censés rester 4 mois en moyenne, mais certains refuseront de rentrer dans leur famille biologique et resteront dans leur famille d'accueil. D'autres passeront plusieurs années dans ces villes du nord ou du centre du pays avant de rentrer. L'expérience des trains du bonheur dure 2 ans environ avant de continuer quelques années supplémentaires sous une forme légèrement différente.
Merci Cécile Debarge, à bientôt. À la réalisation Théo Raison, on se retrouve demain pour une nouvelle édition d'Accent d'Europe. D'ici là, restez à l'écoute, c'est l'heure de grands reportages sur RFI. Aujourd'hui, la bataille pour l'accès à l'eau au Pérou.